Bonjour à tous, on va commencer cette première conférence sur la scène Hetzel. Donc, qui a pour thème la production dans l'univers du jeu vidéo. Donc, j'imagine que vous êtes tous plus ou moins intéressés par ce sujet pour découvrir les coulisses de ce qui se cache derrière la fabrication des jeux auxquels vous jouez sans doute tous les jours. Donc avec nous pour en parler, on va commencer par le fond, Eddie Célestine, qui est le représentant du cluster Atlan Games, donc qui est un cluster qui rassemble les studios de jeux vidéo de la région, au sens assez large du terme, de l'Ouest on va dire. Donc il y a combien de studios
Alors, aujourd'hui on est à 40 studios, le cluster existe depuis 2010 mais a explosé depuis 2014 globalement.
Voilà, donc une quarantaine de studios que vous ne connaissez sans doute pas, car la production locale est assez méconnue, ayant moins de moyens marketing que les jeux classiques. Ensuite, Noam Rubia, donc, qui est producteur sur le jeu Californium, qui n'est pas encore sorti, qui est en cours de production. Et Alain Puget, qui est un des studios membres du cluster Atlan Games, le studio Alchemy, et qui produit un jeu Drifting Lands, qui est en démo dans l'espace de vidéo et qui est aussi une exposition d'artwork. Ce qu'on va faire peut-être, c'est commencer par, afin que tout le monde voit de quoi on va parler, je vais vous demander de présenter chacun les spécificités de vos productions. Donc pour Eddie, ce sera un peu particulier, mais Alain, peut-être pour commencer, la spécificité que tu imagines que présente Alchemy dans la production de jeux vidéo par rapport à ce qui se fait classiquement et ce que les gens peuvent connaître.
Donc nous, on a fait le choix en fait très tôt quand on a créé Alchemy d'adopter un modèle économique, enfin un modèle de financement un peu particulier. C'est-à-dire que plutôt que de se lancer dans l'aventure de création de jeu et d'y mettre toutes nos billes en quelque sorte et de risquer le tout pour le tout, sachant qu'un jeu demande tellement en général de temps et d'investissement que si on se rate, c'est fini. Enfin, l'aventure entrepreneuriale en général prend fin. Donc nous, on voulait éviter ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, créer un jeu vidéo et avoir un jeu vidéo rentable, c'est très compliqué, très risqué. Donc en fait, dès le départ, on a adopté un modèle d'autofinancement où on passe la moitié de notre temps sur la production du jeu, ce qui rallonge d'autant les durées de production qui sont déjà assez longues à la base. Et l'autre moitié du temps, en fait, on fait de la prestation de service dans le domaine de la pub, qui est un domaine plus facilement rémunérateur que le jeu vidéo, enfin plus facilement, avec plus de... On peut être plus sûr des revenus qu'on va avoir si on connaît un peu le milieu et son métier. Et donc, on partage notre temps entre ces deux activités. Donc, nous, c'est un peu ce qui nous caractérise, c'est le fait de bosser sur des projets comme ça, mais un peu à mi-temps, enfin avec des temps, des durées variables, des durées de production variables. Ce qui fait qu'un projet qui, déjà, par nature, va prendre... Les jeux sur lesquels on travaille sont des jeux qui, en général, prennent un an et demi à se faire. Comme on ne travaille pas à plein temps, ça prend encore un peu plus de temps. Donc là, par exemple, le jeu sur lequel on est, ça fait plus de deux ans qu'on est dessus, et on va le finir dans quelques mois, là, bientôt, mais ça aura pris quand même pas mal de temps. Donc c'est une particularité en fait, de notre modèle de fonctionnement de production.
Ok. Du coup, un registre sans doute très différent. Noam, est-ce que tu peux nous parler de la production de Californium ?
Tout à fait. Alors, dans un registre très différent, Darjeeling, la société dans laquelle je suis producteur, est une société de production traditionnelle qui travaille avec les chaînes de télé, principalement Arte et France Télévisions, sur le domaine des nouveaux médias, donc les nouvelles productions web. On n'est pas un studio de jeu à la base, mais on s'est lancé dans la production de ce premier projet, Californium, pour plusieurs raisons. D'abord parce que on voyait dans l'industrie du jeu vidéo... pas forcément un trou, mais une place à expérimenter, une place, un endroit où on pouvait, nous, avoir quelque chose à raconter, c'est-à-dire faire un jeu vidéo sur de la base d'une matière différente, documentaire. Dans le cas de Californium, c'est l'œuvre et la vie de Philip K. Dick, qui est cet auteur de science-fiction américain. Et du coup, on a un modèle économique qui est très particulier, puisqu'on allait voir Arte au début de la production pour leur demander de participer à ce projet. Et Arte est rentré dans la boucle et donc on produit avec le soutien d'Arte, le soutien du CNC, cette œuvre, ce jeu vidéo Californium. Voilà, il y aura quand même une distribution classique sur Steam avec une version payante, mais c'est plus pour nous de l'ordre de l'expérimentation, c'est-à-dire de voir comment on peut d'abord concevoir un jeu de vidéo différemment dans une certaine manière, surtout dans la conception, pas forcément dans la fabrication. Et ensuite, est-ce qu'il y a de l'exploitation possible pour nous, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément du milieu traditionnel du jeu vidéo, et pour Arte, évidemment, aussi, qui cherche à explorer ces formes-là de financement.
Et donc, Eddy, est-ce que tu peux nous dire, alors toi, tu ne produis pas de jeux vidéo, puisque tu représentes et tu animes le cluster Atlan Games, donc qui regroupe, pour le rappeler, une quarantaine de studios qui produisent pour la plupart des jeux vidéo dans la région. Est-ce que tu peux nous dire assez rapidement quels sont les différents types, s'il y en a, de production, de modes de production de jeux par les studios qui sont dans la région? Quelles sont les différentes tailles de studios? Donc, on a déjà Alchemy qui a son système de production particulier avec de la prestation de service pour financer la production de jeux. Est-ce que tu as d'autres exemples dans le cluster?
Alors dans le cluster, aujourd'hui, je pourrais dire que 70% de nos studios sont un peu sur le modèle d'Alchemy. Ils sont beaucoup plus petits. On a quand même beaucoup de studios où on a 3-4 personnes maximum. Donc c'est des petites structures. Mais on tend tous à les orienter vers un modèle de prestation externe pour pouvoir faire entrer suffisamment de revenus pour pouvoir continuer à produire le jeu. Aujourd'hui, comme le disait Alain, et là-dessus, il a tout à fait raison, c'est très difficile de partir de zéro et de se dire que je vais produire mon jeu tout seul sans faire rentrer d'argent extérieur. Et le meilleur moyen de faire rentrer de l'argent et de pouvoir continuer à faire son projet, c'est faire de la prestation, surtout quand on est petit. Moi, je viens de deux gros studios, donc il n'y avait pas les mêmes besoins et c'était beaucoup plus simple. Mais quand on est un petit studio indépendant, la prestation est un bon moyen de survivre, voire de vivre quand on arrive à en faire suffisamment et pouvoir aller au bout de son projet. Comme je le disais tout à l'heure, sur nos 40 studios qui vont de Lannion à Poitiers, globalement, 70 à 80% sont sur ce modèle économique, avec plus ou moins de réussite, mais ils sont sur ce modèle économique. Et nous, c'est le conseil qu'on donnera toujours à Atlan Games aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une partie de son temps de production sur de la prestation, de façon à avoir toujours un roulement de fonds qui permette d'avancer dans le temps et de pouvoir faire le projet. Ça vous mettrez certainement un peu plus de temps à faire le projet, comme le disait Alain, mais au moins vous serez sûr d'aller au bout. On a quelques exemples de studios qui sont partis billes en tête et qui au bout d'un an ont fermé parce que bah, il n'y avait plus de fonds, il n'y a plus d'argent pour produire et c'est quand même le nerf de la guerre.
Et donc toi qui as du coup vu un peu l'industrie du jeu vidéo depuis de quelques années, sans vouloir induire quoi que ce soit, ça veut dire que par rapport à ce que... Est-ce que tu as vu un shift en fait dans la relation entre... dans la production de jeux et notamment la relation producteur-éditeur, puisque dans ce que tu dis là, c'est dire aux gens, aux jeunes studios, de produire eux-mêmes leur jeu sur fonds propres en faisant de la prestation de service pour se financer. Est-ce que normalement, et est-ce qu'il y a quelques années, on n'était pas dans l'idée plutôt d'aller chercher un éditeur pour produire le jeu?
Alors effectivement, il y a quelques années, on allait chercher un éditeur. Le souci, c'est que les éditeurs, et comme les studios, ont moins d'argent aujourd'hui, ou le placent différemment et prennent moins de risques. Malheureusement, en France, les éditeurs, les gros en tout cas, ont tendance à être, comment dire, pas chiche, mais... à faire très attention aux sommes qu'ils mettent et aux sommes qu'ils peuvent dépenser sur un jeu. Ce n'était pas le cas il y avait quelques années et du coup, il y a eu quelques plantages assez gros et puis il y a eu quelques arnaques aussi. Mais aujourd'hui, je conseillerais quand même d'avoir une relation avec un éditeur, mais de quand même avoir des fonds propres de façon à ne pas se retrouver dos au mur. L'éditeur, c'est un peu comme le système du jeu vidéo, c'est un peu aléatoire. Si votre projet plaît, vous trouverez facilement un éditeur. Si votre projet plaît, mais pas suffisamment carré, pas suffisamment abouti, ça va être de plus en plus difficile. Alors, si votre projet plaît pas, c'est même pas la peine d'y penser. Mais voilà, les éditeurs font de plus en plus attention à la somme qu'ils mettent, au temps qu'ils peuvent passer. Et en général, s'ils vous mettent de l'argent dans votre studio, ils voudront des parts, ils voudront avoir une notion de direction artistique ou au moins de production. Ça peut être intéressant si vous avez un gros projet, très gros projet, vous avez besoin de beaucoup de fonds. Si vous avez un projet moyen ou plus petit, je conseillerais de passer d'abord par un éditeur-distributeur pour apprendre à connaître le milieu et après de voir les plus gros publishers.
Et dans les studios du cluster, pour finir, est-ce qu'il y en a justement qui sont passés par des éditeurs ou des gros éditeurs?
Alors aujourd'hui, on a deux studios, un qui passe avec un distributeur qui s'appelle Plug In Digital et qui est parisien, qui est un petit distributeur qui a 4 ans, et surtout on a Sushi qui est en ce moment à la Paris Games Week, qui va être publié par Square Enix, qui est pour nous une belle vitrine, puisque du coup, on va avoir un studio local avec une grosse boîte de production derrière et un gros éditeur. Donc c'est plutôt intéressant.
Merci. Alors donc, avant de poursuivre ou pour poursuivre en fonction de ce que vous attendez, je vais dès maintenant vous proposer que la suite de cette conférence soit interactive. C'est-à-dire que si vous avez des questions précises sur la production de jeux vidéo, eh bien, allez-y. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à nos invités sur la production ? Ah, il y en a plusieurs là. Si on pouvait avoir un micro dans la salle. Le micro arrive. Levez la main ceux qui avaient des questions, que le micro arrive jusqu'à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Dans la production du jeu vidéo, vous avez un parcours spécial avant d'arriver à être programmeur, graphiste ou quoi que ce soit ?
Alors effectivement, on peut peut-être parler des différents métiers. Rapidement, du coup, pour répondre à ta question, peut-être Alain et Noam, chacun votre tour, présenter le type d'équipe de production que vous avez et qui sont ces gens, comment ils en sont arrivés là ?
Alors, chez nous, on a des profils vraiment très, très variés. Le point commun, c'est que tous les membres de l'équipe, en fait, sont des gens qui sont extrêmement motivés et qui se sont énormément en fait investis dans l'auto-formation. Il y a personne chez nous en fait qui a vraiment, par exemple, une formation de spécifique jeux vidéo. À vrai dire, notre moyenne d'âge est un peu élevée. En fait, on a commencé à essayer de se lancer dans ce milieu-là avant que toutes ces formations-là percent vraiment en France. Il y a certaines des personnes qui ont des formations. Moi, par exemple, j'ai une formation de pharmacien, donc rien à voir. Je me suis mis au jeu vidéo un peu sur le tard. J'ai appris tout seul. Ça m'a pris des années pour atteindre un niveau qui soit à peu près décent. Ça fait 13 ans que j'ai commencé à me lancer dans cette aventure-là. J'ai mon lead développeur qui est un complet autodidacte. Il n'a aucune formation de développement. Il a tout appris tout seul et il a pas de formation non plus académique. Il n'a pas le bac. Et après, il a appris en apprenant par lui-même tout seul. Et puis, dans les différents jobs qu'il a eus, il a bossé chez Ankama à Lille pendant quelques années, chez Ubisoft aussi. D'autres camarades qui sont un peu multicasquettes. Enfin, c'est une constante un peu chez nous. On sait tous faire pas mal de choses différentes. Mais mes deux camarades aussi qui sont un peu graphistes et développeurs, ils ont fait des écoles d'art appliqué, mais qui n'étaient pas spécifiquement liées aux jeux vidéo. Et après, ils ont investi beaucoup de leur temps dans l'apprentissage des techniques et des outils propres à cette industrie, quoi.
Je crois d'ailleurs qu'il faut préciser que c'est une particularité, en tout cas moi, dans les studios que je connais, Alchemy, qui effectivement est une petite équipe, donc vous êtes 5 à bosser sur le jeu.
Oui, 5.
Voilà, c'est en grande partie quasiment des gens qui vont être polyvalents, c'est-à-dire qui vont avoir appris des métiers différents. Effectivement, il y a au moins 3 oiseaux rares à base de graphistes développeurs, ce qui est quelque chose qu'on rencontre assez rarement dans l'industrie.
Ah, disons qu'il y a trop de métiers nécessaires pour faire un jeu vidéo pour qu'une petite équipe puisse le faire sans que les gens qui la constituent soient un minimum multicasquette, quoi.
Noam, donc sur Californium, quelle est l'équipe ?
Sur Californium, on a aussi, on n'a pas une grosse équipe non plus. Je pense que c'était au maximum une dizaine de personnes au moment le plus fort de la production. Par contre, nous, c'est des gens qui sont peut-être un peu plus jeunes et qui sortent d'écoles de jeux vidéo. Ils ont fait soit des études de game design, soit des études pour les développeurs de programmation, y compris de game design d'ailleurs. Effectivement, je pense que ça demande beaucoup de temps personnel pour à investir, pour apprendre les mécanismes, pour avoir une certaine base, pour pouvoir le développer sur des productions de ce type-là. Dans la typologie des productions, c'est-à-dire effectivement des petits studios avec des petites équipes, on est effectivement obligé d'être un peu multicasquette, c'est-à-dire de savoir faire un peu de graphisme, de savoir faire un peu de level design, en tout cas d'avoir des notions, de savoir un petit peu programmer pour pouvoir un peu toucher à tout, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir 100, 200 ou 300 personnes qui travaillent sur la production d'un jeu. Par contre, il y a beaucoup de formations un peu partout en France, il y en a pas mal à Paris effectivement, qui sont de très bonne qualité. Plusieurs écoles, notamment de jeux vidéo, et qui forment très bien.
Tu peux citer les écoles, enfin par rapport les gens que tu as chez Darjeeling.
Nous, on a des gens de l'ICAN, qui est une école spécialisée dans le jeu, de Lizard Digital. On a eu un développeur de l'Epitech, d'Epitech aussi. Donc c'est un peu varié. Epitech, c'est pas forcément très spécialisé jeux vidéo, mais ils sont très bons en programmation, et du coup, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec un dev de là-bas. Après, notre directeur artistique, par exemple, pour reprendre les multicasquettes, lui, c'est un illustrateur qui vient de la presse, tout simplement, qui sort de l'école Émile Cole de Lyon, qui a moins de 30 ans, qui n'avait jamais fait de jeux vidéo. Il y a les expositions d'artwork là-bas aussi pour aller voir. Et qui est voilà, qui s'est mis avec nous dans cette production. C'est long, il faut apprendre, il faut comprendre ce que ça veut dire faire du jeu vidéo, faire des graphismes pour le jeu, l'adapter, etc. Mais c'est pas un prérequis d'avoir fait une école, mais il faut quand même avoir certaines bases sur certains postes clés.
Et pour finir de répondre à cette question, donc sur qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à finir dans un studio de production de jeux vidéo, j'ai envie de dire, donc comme on l'a vu là, il n'y a pas de parcours tracé. Depuis quelques années, il y a effectivement des écoles qui proposent des formations spécifiques, soit un peu polyvalentes, soit spécifiques sur des métiers comme graphiste, game designer, développeur, etc. Quoi que vous fassiez, si vous voulez faire du jeu vidéo, quelque part, ce n'est pas forcément votre parcours scolaire ou vos diplômes qui vont faire que vous serez embauché, c'est plutôt, comme on l'a vu là, une histoire de motivation et de temps personnel passé. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment motivé par cet univers-là et ces métiers-là, le mieux que vous puissiez faire, c'est pratiquer. Vous avez forcément, si vous êtes motivé par ce métier-là, des idées de jeu, et le mieux que vous puissiez faire, c'est les mettre en forme, les créer. Pour ça, notamment, on organise régulièrement, à travers, il y en a un peu partout, mais à Nantes, il y en a au moins 3 ou 4 par an, des game jams, c'est-à-dire des sessions pendant lesquelles des gens vont pendant 48 heures créer des jeux. C'est un très bon exercice, par exemple, si vous mettez aux jeux vidéo, de venir voir comment ça se passe. Et une fois que vous avez commencé à travailler un domaine, le graphisme, le développement, etc., d'essayer de participer à ce genre de choses. Ou, de votre côté, de créer chez vous, en marge de votre cursus, d'essayer de produire des jeux. Alors, si vous n'êtes pas développeur, il y a des plateformes qui existent, type Construct, par exemple, qui demandent pas trop de notions de développement et qui peuvent être prises en main en autodidacte. Il y a des langages de développement assez simples qui ont des tutoriels, etc. Donc, parce que votre meilleure carte de visite, si vous voulez travailler dans un studio, c'est les projets sur lesquels vous aurez déjà travaillé.
Ouais, ça c'est un truc vraiment important. Le jeu vidéo en France, c'est peut-être un des seuls milieux professionnels où les diplômes ont infiniment moins d'importance que ce que vous avez à montrer concrètement. C'est-à-dire que dans plein d'autres domaines, pour obtenir un poste à responsabilité ou un poste important ou juste obtenir un job dans une boîte, c'est bien d'avoir un diplôme. C'est mieux si vous avez un diplôme de grande école, d'ingénieur ou je sais pas quoi. Dans le jeu vidéo, c'est un des rares milieux où, même si vous n'avez pas le bac, si vous avez un book ou des références de tueurs, vous êtes sûr de trouver un job. Et c'est vraiment, en tout cas en France, c'est, je pense, un domaine assez exceptionnel pour ça. C'est, je pense, un truc un peu plus fréquent chez les anglo-saxons. Mais en tout cas, en France, dans le jeu vidéo, ça se passe aussi comme ça, quoi. Donc c'est vraiment, si vous n'avez rien à montrer, même si vous avez un diplôme d'une super école, que vous sortez de Lizard Digital, de Langemin, qui sont pourtant des trucs spécialisés, si vous n'avez à montrer que vos réalisations étudiantes, qui sont vraiment en plus tout le temps les mêmes, chaque promo, tous les membres d'une même promo envoient les mêmes trucs parce que c'est les mêmes exercices qui ont été donnés par les mêmes profs. Du coup, si vous n'envoyez que ça, que des trucs très scolaires, vous avez vraiment très peu de chances en fait de marquer quelqu'un et d'être retenu pour un job. Alors que si vous avez des travaux personnels de qualité, en fait, peu importe votre diplôme. C'est vraiment la preuve de ce que vous êtes capable de faire qui compte avant tout.
Il a résumé ce que je voulais dire. Donc.
Très bien. Donc il y avait une deuxième question. Voilà, ici, si le micro pouvait passer.
Alors, je voulais vous demander quelles seraient les technologies qui seraient très intéressantes à développer.
Parle bien fort et dans le micro, parce qu'on entend, on a un peu de mal à entendre là.
D'accord. Quelles seraient les technologies que vous conseillerez de travailler, notamment pour un travail personnel dans le jeu vidéo ? Par exemple, en ce moment, j'ai entendu parler de l'Unreal Engine 4 qui était devenu gratuit. Est-ce que vous pensez, par exemple, que cette technologie pourrait être intéressante à l'avenir ? ou est-ce qu'elle va vite être dépassée par une autre technologie qui vient faire son apparition pour le moment ?
Alors, il y a deux questions quelque part. La première, c'est effectivement ce qu'on doit faire, ce qu'on doit apprendre pour pouvoir produire soi-même éventuellement des projets et donc avoir des choses à montrer, comme on le disait à l'instant. Et il y a aussi la notion de se former à des outils qui serviront après dans l'industrie. Et parce que ces deux choses-là vont être intéressantes. C'est-à-dire qu'on va effectivement regarder les projets des gens, mais si aussi ils connaissent les outils qu'utilise le studio, c'est aussi un avantage. Donc peut-être présenter les technologies que vous utilisez.
Je vais juste te dire que toute technologie est vouée à disparaître, donc il faut quand même dès le départ essayer de travailler sur le maximum d'entre elles, comme le disait Alain tout à l'heure, ou même Noah. La polyvalence est très importante dans un studio, donc si vous êtes que spécialiste d'une seule techno, ça peut être compliqué parfois, et c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui peuvent bosser et bosser bien sur une ou deux technos différentes.
Noam, sur Californium, vous êtes sur...
Alors, sur Californium, nous, on travaille sur Unity, qui est une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de petits studios et de jeux et de développeurs indépendants. C'est un logiciel assez facile, on va dire, comparé aux autres, à prendre en main, qui nécessite quand même des bases de programmation, mais que n'importe qui peut manipuler. Et ça, il y a des tutoriaux, c'est assez facile, si on a une petite affinité, de commencer à se plonger dedans. Après, plus on rentre dans des jeux compliqués, plus il va falloir des notions de programmation importantes. Sur les technologies, c'est dur de répondre à cette question parce que chaque jeu a des besoins très spécifiques. On va travailler sur des technologies spécifiques en fonction de la typologie du jeu, en fonction des performances, du type de graphisme, du gameplay, de plein de paramètres du support final. Alors c'est vrai que l'exemple de Unity est un bon exemple, c'est un peu pour ça aussi que Unity s'est énormément développé, c'est qu'a priori en un clic on peut porter un jeu sur PC, Mac, tablette, iOS, console également.
Donc c'est a priori.
A priori. Voilà, ça demande des plus le jeu est compliqué, plus il y a de l'adaptation. Ouais, c'est plus qu'un clic. Mais dans le soft, on peut faire un clic et l'envoyer sur quelque chose. Du coup, il y a privilégier une technologie, c'est un peu compliqué. Alors oui, il y a des grands spécialistes de Unity, il y a des grands spécialistes d'Unreal, il y a des gens qui travaillent à des niveaux d'ingénierie un peu plus poussés que ça, qui sont très spécialisés. Après, voilà, ça dépend du jeu, ça dépend de l'équipe, ça dépend de pas mal de paramètres.
Personnellement, concernant l'Unreal 4, j'ai pas encore essayé. J'ai vu que dans leur promotion, ils précisaient qu'il n'y avait pas besoin de développeurs pour faire un jeu avec. Je ne sais pas ce que ça vaut. Sur le principe, ce que je conseillerais moi pour commencer à apprendre, donc c'est soit de se tourner vers des technologies, des plateformes de type Construct, qui est une plateforme qui permet de faire sans faire beaucoup de développement, de faire des jeux qui vont être sur le web. Donc c'est en plus quelque chose qui est facile à distribuer. Après, si vous voulez apprendre le développement, donc, en dehors d'une histoire de faire un cursus qui vous apprend le développement, un cursus scolaire, il y a des sites internet qui permettent de le faire, notamment Codecademy, qui est un site internet qui permet de s'initier au développement. Et si vous êtes déjà initié au développement et que vous voulez aller plus dans le développement de jeu, il y a des sites très intéressants comme Coding Games, qui est un site qui donne des petits défis de développement et qui en plus a la particularité de proposer de réaliser chacun de ces défis de développement dans n'importe quel langage. Donc il y a une liste longue comme le bras de langages différents. Ça veut dire qu'en fonction du langage avec lequel vous venez, vous pouvez commencer à faire ces mini défis. Et une fois, si vous voulez découvrir d'autres langages, vous pouvez essayer de les faire en utilisant ces autres langages. Alain, peut-être aussi ajouter là-dessus ?
Ouais, alors honnêtement, Unreal, Unity, c'est deux technos qui sont là depuis un moment, qui sont pas prêts d'être supplantés par quoi que ce soit d'autre. Il y a déjà plein d'autres technologies à côté. C'est les deux plus importantes en ce moment dans l'industrie. Effectivement, dans l'industrie indépendante, je pense que Unity est leader en ce moment. Dans la plus grosse industrie indépendante, Unreal, par contre, est en général devant. Et puis après, chez les très gros studios, bah, c'est du moteur maison. Savoir utiliser Unreal et Unity, en fait, les deux, c'est pas forcément nécessaire. En fait, le truc, c'est quand on connaît l'un, on connaît un peu l'autre, c'est les mêmes concepts, c'est les mêmes... Enfin, voilà. Déjà, apprendre un, c'est bien. Il y a déjà suffisamment de choses à apprendre sur un, voilà, c'est bien. Apprendre l'un ou l'autre, ça peut pas être une erreur. Et par contre, moi, juste pour réagir sur le truc, sur notamment la pub Unreal Engine qui passe énormément sur Facebook en ce moment. Enfin, elle apparaît sur mon mur peut-être parce que je suis dans le milieu et que
moi aussi,
les pubs targetées Facebook marchent plutôt pas mal à ce niveau-là. Mais du coup, la pub, réaliser votre jeu sans savoir coder, ça c'est un gros mensonge. Mais par contre, faut pas avoir peur en fait. En fait, ce que veulent dire ces pubs, c'est juste qu'en fait, on va vous faire programmer en utilisant une interface graphique qui va peut-être moins vous impressionner que de taper des lignes de code. Mais si vous êtes capable de faire un jeu en manipulant des graphes, en reliant des nœuds et en manipulant des petites briques, en fait, vous savez programmer. Voilà. Donc c'était juste parce que taper des lignes de code, c'est rien d'autre que d'assembler des petites briques et de relier des petites briques entre elles.
Donc, c'est une question de nomenclature et de syntaxe. J'espère que ça répondait bien à la question. Une autre question là-bas ? Si le micro pouvait migrer ?
Moi, j'ai envie de faire du cinéma, donc je vais peut-être dire une bêtise, mais je voulais savoir aussi, en tant que producteur, est-ce que votre métier, c'est pas de mettre en relation différentes personnes, c'est-à-dire le jeu vidéo ? Est-ce qu'on peut partir que d'un scénario ? Et ensuite se mettre en relation avec des graphistes ou être que graphiste et chercher des scénaristes, ou vraiment la polyvalence inclut avoir une idée générale du jeu dans son entier?
Alors c'est une question qu'on a souvent, effectivement. On a surtout souvent des gens qui viennent voir des studios en disant « moi j'ai une idée de jeu, et est-ce que vous pouvez la produire ?» C'est un peu dans le même ordre d'idée, dans la mesure où effectivement qu'est-ce qu'il faut pour initier la production d'un jeu. Alors c'est souvent à la base une personne qui a envie de faire le jeu et qui a les moyens de le faire. Après effectivement
Alors dans mon cas c'est un peu particulier, je sais pas comment ça va se passer chez d'autres studios. Effectivement, nous, on est une société de production traditionnelle, donc on va partir d'idées un peu qui ne sont pas forcément des idées de jeu à la base. Je vais prendre l'exemple de Californium. Californium, c'est un jeu autour de Philip K. Dick. Notre envie à la base, c'était de raconter cet auteur-là. Donc on a imaginé un projet qui est composé d'un documentaire télé traditionnel qui passera sur l'antenne d'Arte. Et on s'est rapidement penché sur le web. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire sur Internet pour un peu raconter cet auteur de manière un peu différente que de manière linéaire. On a rencontré une personne qui se trouve être un game designer avec qui on a réfléchi et qui, au bout d'un certain moment, nous a dit « ça sert à rien de tourner autour du pot ». Philip K. Dick, il parle des notions de réalité, il parle de la notion d'être humain. Tout ça, ça se retrouve dans un jeu vidéo. Il faut faire un jeu vidéo. Et ça, ça a été le point de départ de l'idée. Ensuite, et c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'on va essayer d'assembler différents bouts. On va essayer d'assembler un concept de jeu. Donc d'abord, il faut trouver un concept qui match avec ce qu'on a envie de raconter. Ensuite, il faut trouver une direction artistique. Et ensuite, il faut trouver un scénario. Et la complexité, notamment sur Californium ou sur ce type de jeu qui sont des jeux narratifs ou d'exploration, ou voilà, sur certaines typologies de jeux, ça va être d'imbriquer tout ça ensemble et de faire en sorte que ça marche et que tout aille dans la même direction. Sur la notion de scénario, par exemple, c'est très particulier, le scénario en jeu vidéo. Nous, on l'a découvert, on a appris, on a dû expérimenter, on a dû tester des choses et on s'est rendu compte très rapidement que la narration linéaire qu'on connaît dans les films, dans les documentaires, sur plein de supports, dans un livre, n'est pas du tout adaptée à un jeu vidéo qui a une narration plutôt spatiale. Donc il faut prendre en compte plein de paramètres, il faut prendre en compte le gameplay, ce que le joueur va faire, ce qu'il va devoir faire, le fait que dans notre cas on est dans un univers en trois dimensions, on est en première personne, le joueur est libre de ses mouvements et tout doit servir ce scénario. Donc c'est un peu, ça va être aussi je pense au cas par cas. On travaille là sur un nouveau projet de jeu vidéo qui est parti d'une image. On a trouvé une image, on a trouvé un artiste et on s'est dit... Ça aussi, c'est un jeu vidéo, c'est pas possible, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et à partir de ce moment-là, on a monté une équipe, on a réfléchi et on commence à peine à travailler les mécanismes, la direction artistique autour de ça, l'histoire qu'on va raconter avec ce jeu vidéo. Voilà. Donc je pense que c'est varié. Dans notre cas, c'est l'envie de raconter un auteur et ensuite une image. Et chez d'autres, ce sera un gameplay, une mécanique. Peut-être qui aura été faite sur une game jam de manière très sommaire, avec des ronds et des carrés, mais qui se trouve être super intéressante et qu'on va développer en jeu. Donc on va ramener du scénario, du graphisme, etc. pour en faire un jeu. Voilà.
D'autres...
On a aussi l'exemple de Sushi avec Goetia. Le projet Goetia est né de l'esprit et de la volonté de son dessinateur principal, qui est Moeti, et qui est venu avec une idée... et avec des graphismes et avec un début de scénario. Et en fait, il est allé voir le studio Sushi en disant « Ben voilà, moi j'ai un début d'histoire, j'ai des artworks, mais je ne sais pas coder, je ne sais pas développer, donc est-ce que ce projet vous intéresse ? Ça arrive aussi, alors ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive aussi. ce que je veux dire, c'est que si votre idée est bonne, et, si, et ça rejoint ce que disait Alain tout à l'heure en termes de motivation et d'envie, si votre idée est bonne, si vous avez déjà travaillé dessus et que vous venez avec une forme, une sorte d'humilité en disant ben voilà, moi j'ai des choses à dire, j'ai des choses à montrer, j'ai déjà travaillé dessus, mais par contre j'ai besoin de soutien et d'aide et de support pour passer à l'étape supérieure, un studio pourra vous supporter. Si c'est juste se dire coucou, je me suis levé, j'ai une idée de jeu vidéo. Dans le studio, ils en ont une toutes les 5 secondes. Donc ouais, ça,
du coup, là, pour Goetia, en fait, il y avait l'idée, mais voilà. Surtout il y avait la DA, en fait. Il y avait l'univers artistique du graphiste, enfin de l'artiste, qui était déjà posé. Et en fait, il est arrivé avec ça. Enfin, c'est ça aussi. Ouais. Et surtout, je pense qu'il a séduit le studio, pas juste une idée comme ça. Voilà. Tout le monde a des idées, mais par contre, en fait, les idées ne valent pas grand chose tant qu'elles n'ont pas été un minimum concrétisées, en fait, dans le domaine du jeu vidéo. C'est, mis à part quelques game designers extrêmement expérimentés, qui sont capables de projeter une idée et de se faire une idée, ben, voilà, d'imaginer ce qu'elles vont donner concrètement une fois réalisées en jeu vidéo. C'est extrêmement rare, en fait, de pouvoir se dire « j'ai une idée et ça va faire un jeu génial ». Enfin, tout le monde se dit « j'ai une idée, ça va faire un jeu génial », sauf les gens qui ont un petit peu expérimenté le fait qu'ils ont commencé à implémenter, à créer, à mettre, vraiment, à mettre les mains dans leur idée géniale pour s'apercevoir que c'était pas du tout aussi génial que ça. Et donc, mis à part les gens qui sont très expérimentés, qui ont déjà fait ce processus plusieurs fois, le côté « j'ai une idée géniale, ça va faire un jeu du tonnerre », ça vaut pas grand-chose. C'est vraiment de commencer à la concrétiser, en fait, qui donne de la valeur à l'idée.
Faut vraiment travailler dessus avant de la présenter à qui que ce soit.
Je vais être peut-être un peu plus précis sur cette phase-là. Et ce qui est hyper intéressant dans le jeu vidéo et que nous, on a découvert, appris et que du coup, on essaye aussi de mettre en place sur d'autres médiums, c'est le prototypage. C'est-à-dire, effectivement, on a une idée, il faut la tester très vite, très rapidement et s'assurer qu'elle fonctionne. C'est des choses qui sont faisables avec des très petites équipes sur un temps très court. Ça ressemble à de la game jam, c'est-à-dire en 2-3 jours, on doit pouvoir fabriquer un bout du jeu, la mécanique principale, on doit tester pour pouvoir juste vérifier si c'est vraiment intéressant, si on peut se projeter dedans, s'il y a du plaisir, s'il y a voilà, ce qu'on recherche dans cette idée. Et cette technique de prototypage et d'itération, c'est-à-dire de repasser à chaque fois sur toutes les couches ou sur tous les départements, et ben c'est quelque chose que le jeu vidéo fait assez naturellement. Et qui est en fait une méthodologie très très intéressante qui, si elle est bien comprise et bien maîtrisée, peut éviter certains écueils très rapidement et éviter de partir sur des fausses bonnes idées, par exemple.
Alors, je finirai juste sur la construction des projets, la mise en place des projets. Donc il y a des projets comme ceux de Californium ou de Goetia qui sont partis de concepts, d'idées artistiques. Qui sont une façon de fonctionner. Et puis après, il y a tous les autres, j'ai envie de dire, qui partent juste de gens passionnés qui ont envie de tester leurs propres idées de jeu qu'ils ont depuis des années. Donc nous, c'est plus notre cas. En fait, c'est pas, en général, on part pas avec une idée de jeu, avec une idée d'histoire tout de suite. C'est plus justement un gameplay ou un truc qu'on a envie de faire, en fait, qu'on a souvent envie de faire depuis des années. Et on monte une équipe, enfin on a une équipe et on se lance sur le projet et on cherche pas forcément des acteurs extérieurs. Après, on peut chercher des renforts au fur et à mesure. Nous, quand on a commencé Drifting Lands, le projet sur lequel on est, on était que deux. Et puis en fait, avec le temps, la boîte a grossi. Et puis avec les besoins vraiment liés au jeu, par exemple la dernière personne arrivée, Dimitri, qui est notre illustrateur, dont les illustrations sont visibles à côté. Hein. Il a intégré l'équipe parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un fort besoin en illustration qu'on n'était pas capable d'assumer nous-mêmes. On n'avait pas le niveau nécessaire justement dans ce domaine très particulier de l'illustration pour faire passer la qualité, mettre la qualité qu'on voulait sur cette partie-là du jeu, qui n'est pas forcément centrale mais quand même importante pour nous. Donc voilà, on constitue les équipes comme ça éventuellement progressivement, ou on fait avec les gens, on fait avec ce qu'on a. Ça dépend des moyens financiers, de comment ça se passe, de comment se déroule le projet. Il est possible soit d'adapter les moyens aux nécessités du projet, aux envies, si on a les moyens financiers, ou alors on remanie le projet, on redimensionne le projet si on n'a pas les moyens, et donc on revoit à la baisse ses ambitions. Enfin, tous les choix sont possibles, en fait.
Et pour finir de répondre à la question, comme il y a beaucoup de petits studios dans la région, en fait, Atlan Games notamment essaye de centraliser justement des informations sur les compétences qui sont disponibles, soit les freelances, soit dans les studios, quelles sont leurs spécialités, etc. Pour que quand des besoins émergent effectivement dans une équipe, on n'a pas de, on n'a pas de compositeur musical, on n'a pas de d'illustrateur ou autre. De voir s'il n'y a pas toujours moyen d'embaucher quelqu'un pour faire ça, mais peut-être qu'une collaboration ou de faire de la prestation à un autre studio qui intègre cette compétence-là permette de le faire. Et donc, du coup, là, c'est le rôle du cluster plutôt, en l'occurrence, c'est nous qui fait ça, qui permet un peu de faire le lien entre les différentes personnes.
Justement, on peut parler, ça me fait penser à un exemple très concret qui rejoint aussi la question un peu précédente de comment on rentre dans le milieu du jeu vidéo.
Oui, tout à fait.
Nous, on s'est lancé dans le jeu, on n'a aucune compétence en interne de composition musicale. Et en fait, il y a 2 ans, on a fait une game jam, la game jam des Utopiales, justement, dans laquelle on a rencontré un jeune homme qui s'appelle Louis Godard, qui est nantais, qui est étudiant au conservatoire de Nantes. On a bossé avec lui, en fait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai bossé avec lui. Dans la même équipe que lui sur le même projet, et j'ai trouvé que son taf était juste génial. Et bah, quelques mois plus tard, c'est devenu le compositeur officiel de Drifting Lands, et c'est lui qui fait toutes les musiques du jeu. Donc lui, c'était son premier taf dans le domaine du jeu qu'il a trouvé comme ça dans une game jam. En fait, il a commencé à créer son réseau professionnel dans une game jam. Et donc voilà, donc c'est un membre de l'équipe qu'on a intégré, alors qu'il fait pas vraiment partie d'Alchemy, mais qu'on a intégré au projet parce qu'on l'a rencontré et on avait ce besoin-là à un moment.
Et maintenant, il travaille pour plusieurs studios, d'ailleurs. Donc, aller dans les game jams est à la fois une façon d'apprendre et à la fois une façon aussi de faire connaître son talent et du coup, éventuellement, de trouver des gens avec qui travailler. D'autres questions ? Il y en a une là-bas.
Est-ce que les studios de production commencent à produire des jeux sur casque de réalité virtuelle, tels que l'Oculus Rift, ou pas encore ?
Alors, bah, allez-y, mais c'est assez émergent, effectivement.
Ouais, il y en a... Alors le seul en France que je connais qui est vraiment spécialisé là-dedans, c'est Agartha Studio à Lyon. Ils ont fait un jeu qui s'appelle Shufflepuck Cantina, dont ils ont sorti un update, je sais plus quand, au début de cette année je crois, sur Steam, qui permet déjà d'utiliser un Oculus Rift DK2 ou même le 1 je crois, enfin dans leur jeu en fait. C'est un jeu de palais qui se passe un peu dans un univers un peu similaire à celui de Star Wars. Et donc, eux, par exemple, à Garta, ils font que ça. C'est leur créneau. C'est même si on est encore au stade des prototypes et que les produits de la VR ne sont pas encore vraiment commerciaux au grand public, ils vendent déjà des jeux qui s'adressent exclusivement à ces périphériques-là. Il y en a de plus en plus. Ils vont très bientôt plus être les seuls en France, j'imagine. C'est le seul exemple vraiment connu que moi je connais, mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs autres que je ne connais pas, qu'on peut encore émerger ou dont je n'ai pas connaissance.
Oui, effectivement, il y a pas mal de studios qui s'y intéressent en tout cas, soit pour faire de l'adaptation, c'est-à-dire de travailler des versions VR de jeux déjà existants. Ubisoft a une cellule de R&D sur la VR. On ne sait pas ce qu'ils vont en faire, mais elle existe, elle est là. Il y a un petit truc quand même sur la réalité virtuelle. Pour que ça émerge, il faut qu'il y ait du contenu. Et pour qu'il y ait du contenu, il faut que les gens s'y intéressent, que les développeurs s'y intéressent. Voilà, c'est un espèce de cercle un peu particulier. Et tout le monde est un peu sur le qui-vive, c'est-à-dire tout le monde sort son casque, tout le monde a quelques jeux à dispo, etc. Mais tant qu'il n'y a pas un catalogue suffisant, a priori, le public n'achètera pas des casques parce qu'on ne va pas acheter un casque à 400€ juste pour un jeu.
Tout le monde a en mémoire en fait la 3D, la 3D exactement. Stéréoscopique avec les lunettes et tout, qui était censé être the next big thing il y a 2-3 ans et qui a floppé mémorablement commercialement.
Ouais, c'est potentiellement une des voies possibles de la VR, c'est exactement la même chose. C'est une grosse annonce, beaucoup d'argent injecté dans le développement des casques et dans certains projets, et au final pas grand chose. Alors il y a quand même pas mal de jeux, je sais pas en France, mais il y a pas mal de studios qui se mettent à la VR pour faire principalement des jeux d'horreur. A priori, ça marche bien.
Et des jeux de simulateurs spatiaux.
Et des simulateurs spatiaux. Valve. Mais je crois que c'est juste une adaptation de leur simulateur. Donc voilà. Donc c'est un peu mitigé en ce moment.
Il faut attendre encore quelques mois ou quelques... Je dirais... Quelques mois avant de voir si ça va vraiment décoller ou pas. Et dans tous les cas de figure, tant que le grand public ne se sera pas accroché à quelque chose... On restera toujours dans l'expectative dans la plupart des studios.
Oui, une question devant. Et une autre après, là-bas.
Et en termes de visibilité, comment ça se passe? Parce qu'il y a des montagnes de jeux qui paraissent tous les jours. Et comment ça se passe dans vos têtes de producteurs de jeux vidéo? Est-ce que vous avez une stratégie à la base avant de produire le jeu vidéo, ou on croise les doigts quand on y arrive?
Alors, effectivement, c'est une très bonne question. C'est quelque chose que... C'est souvent une erreur d'ailleurs de gens qui connaissent pas forcément le milieu et qui veulent s'y lancer. La visibilité est une vraie problématique. Effectivement, il y a énormément de produits qui sortent tout le temps. Il y en a une grande quantité qui sont ce qu'on appelle les triple A, donc qui vont être des jeux vendus à 60€ dans tous les rayons de tous les magasins et sur Internet, et qui ont des budgets souvent équivalents en production et en marketing, ce qui ne va pas être le cas de tous les jeux. Et donc effectivement, se faire une place au soleil est un vrai problème. Donc, les producteurs en question vont vous dire comment ils ont trouvé leur solution.
On n'a pas trouvé, on n'est pas encore sorti. On verra quand on sortira.
La particularité quand même, c'est que vous avez un diffuseur Arte.
On a un diffuseur avec Arte. Arte a quand même une marque. C'est quand même ils ont une puissance, en tout cas en France et en Allemagne, qui est vraiment intéressante. Donc ça, c'est un premier avantage qu'on a. Par contre, Arte dans le milieu du jeu vidéo, c'est pas forcément reconnu. Quand on va sur Steam, qui est cette plateforme de vente de jeux où il y a je ne sais pas combien de centaines, de dizaines, de milliers de jeux, faut pouvoir sortir.
C'est quelques milliers.
C'est quelques milliers. Hein. Faut pouvoir monter. Nous, on s'est associé avec un distributeur qui s'appelle Neko et qui ont cette expertise-là que nous, on n'a pas parce qu'on n'a jamais fait, qui est de savoir communiquer sur un jeu vidéo, d'avoir des contacts auprès des plateformes de distribution, auprès des journalistes spécialisés, auprès des événements. Californium est à la Paris Games Week, on était aux EIGD, voilà, divers festivals. Ça fait partie du travail, donc il faut de la visibilité. Il faut être présent, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir communiquer. Il y a une manière de communiquer. Tout ça, nous, on le savait pas. Et après, alors tout le monde parle de l'Indiepocalypse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux indés qui sortent, qui sont de très bonne qualité, mais qui ne vont pas marcher parce que pas de visibilité, parce qu'on est sorti en même temps que le dernier Call of Duty et que, il est passé devant, voilà, ce genre de... Il y a mille et une raisons pour qu'un jeu marche et pour qu'un jeu ne marche pas. C'est très difficile de dire comment faire. Par contre, ce qu'on voit un peu, c'est qu'il faut se différencier. Alors ça, c'est notre petite expertise, enfin, pas expertise, expérience, là, qu'on a eue sur Californium. C'est, on s'est rendu compte que sur le premier festival qu'on a fait en septembre, d'avoir un illustrateur qui vient pas du tout du milieu du jeu vidéo, qui a une imagerie très différente, avec des dessins particuliers, etc. On s'est un peu dénoté, on est un peu sorti du lot des jeux auxquels on était accolés. Donc faut trouver sa spécificité, faut la mettre en avant, faut la travailler. Je sais pas si ça se pense dès le début. Probablement. Nous, c'est arrivé un peu de manière empirique. C'est-à-dire, à un moment, on a trouvé quelque chose qu'on allait pouvoir tirer. Et voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Je suis incapable de le dire.
Et pour Alchemy, donc c'est un peu particulier. Vous avez, si je ne me trompe pas, des relations aussi avec un studio qui fait des relations presse?
Ouais, alors, enfin... Bon, ouais, enfin, c'est des relations professionnelles et amicales. Enfin, c'est des échanges sur. On apprend en fait de leur expertise. Nous, alors moi, enfin voilà, ce problème-là, on en est extrêmement conscient depuis très longtemps. On a sorti un jeu il y a 3 ans en fait, qui était publié par un éditeur, parce que justement, on ne voulait pas avoir à faire ce travail-là de nous-mêmes. Bon, il se trouve que l'éditeur, 1, a pas fait son boulot, 2, nous a arnaqué. Donc, on est en procès avec eux depuis 3 ans. Ça s'est réglé. Le jeu s'est quasiment pas vendu. Quasiment personne le connaît. Tout va bien. On voulait pas recommencer cette expérience, donc on bossera probablement pas en fait avec un éditeur ce coup-ci. On va probablement le faire nous-mêmes. On bossera peut-être avec des partenaires, des diffuseurs ou des gens qui gèrent un peu les RP avec nous, mais on veut continuer de le faire nous-mêmes. Honnêtement, si je savais pas que mon jeu était complètement autofinancé par notre activité, je serais terrifié. Hein, je me dirais, mais comment on va faire? On va droit dans le mur. C'est un enfer. Voilà. Je suis relativement serein parce que même si on vend 0 copie, moi et mes petits camarades de jeu, on aura toujours un emploi le mois d'après. C'est pas le souci n'est pas là. Par contre, je suis extrêmement conscient de la difficulté qu'il y a à faire connaître son jeu. Mais du coup, comme un jeu est très compliqué à faire, demande un investissement énorme, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi énormément de frustration. C'est beaucoup de travail. Nous, on a pris le parti de dire, bon... On sait que ça va vraiment être compliqué, on sait qu'on a peu de chances d'être rentable, comme tout le monde. Mais comme on s'autofinance, on fait le jeu qu'on a envie de faire. On se pose pas trop de questions là-dessus. Mais par contre, on est conscient du problème. Donc, le jour où on a vraiment notre jeu qui s'approche de la fin, ce qui va être bientôt, on va vraiment commencer à s'énerver sur la com, tirer sur la jambe de tous les journalistes qu'on peut trouver, voilà, d'aller voir les youtubeurs, les twitchers, de leur dire vas-y, joue à mon jeu, s'il te plaît, joue à mon jeu, s'il te plaît, joue à mon jeu, s'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu les moyens modernes de communication. En fait, la presse spécialisée a presque moins d'influence que les plus gros youtubeurs ou les plus gros twitchers. Nous, c'est plutôt sur ces axes-là qu'on va se viser. C'est énormément de travail, d'investissement, en fait, à contacter les gens, les relancer, les suivre, devenir, enfin, pas devenir copain avec eux, mais voilà quoi, être gentil, prévenant, leur amener la clé sous le nez, voilà, leur dire, sélectionner les gens qui vont, dont on pense qu'ils vont avoir un avis plus favorable sur notre jeu parce que c'est leur cam, enfin voilà. Donc il y a un énorme boulot là-dessus et personne n'a la formule magique, personne. Donc ben voilà, on s'inspire, on voit les trucs qui marchent. Alors après, le problème dans le jeu vidéo, enfin comme un peu dans tous les domaines, quand un truc cartonne, quand une technique cartonne, quelque part elle modifie le marché en même temps. C'est-à-dire qu'elle voilà, c'est Minecraft a vendu des millions d'exemplaires. Et même s'il y a eu des copies après qui ont un peu marché, elles ont toutes moins bien marché que Minecraft. Parce que une technique, soit un produit, soit une technique de com, peut cartonner à un moment pour une raison un peu inattendue, être au bon moment, au bon endroit. Mais le simple fait de l'utiliser, quelque part, modifie la perception qu'on a de cette technique ou de ce moyen de communication et, en général, le rend moins efficace. Les premières personnes aussi, les premiers gros succès de Kickstarter sont devenus beaucoup plus rares. Parce que derrière, il y a eu une modification du marché, les attentes des gens ont changé, la perception du Kickstarter et du crowdfunding a changé. Les gens ont été parfois déçus par des projets qui avaient reçu beaucoup d'argent. Enfin, donc il y a forcément des conséquences à des gros succès qui font que répliquer les succès ne fonctionne pas forcément aussi bien, voire pas du tout.
Et pour conclure, effectivement, pour communiquer sur un jeu aujourd'hui, il y a une espèce de notion de philosophie. Soit on est sur des grosses productions et on va acheter des clients, des joueurs en fait. Donc le marketing, c'est ça, hein. Si vous dépensez 5 millions de marketing, vous êtes à peu près normalement capable de savoir combien de copies vous allez vendre. Donc voilà, donc c'est triste, mais c'est comme ça. Et l'autre solution, c'est effectivement de travailler notamment sa communauté. C'est-à-dire, beaucoup de jeux le font. Le financement participatif a initié ça pas mal, à savoir, a rendu ça plus populaire, parce que ça existait déjà avant. Le fait que les producteurs d'un jeu commencent à communiquer sur le jeu pendant sa production, échangent avec les joueurs pendant la production, du coup, font grossir une communauté qui va attendre le jeu, qui vont être les ambassadeurs du jeu en termes de communication au fur et à mesure. Il y a un studio qui s'est spécialisé là-dedans, c'est Amplitude, voilà, à Paris. Donc, ils sont des ex d'Ubisoft à la base, et ils ont décidé même d'en faire leur façon de produire leur jeu, à savoir qu'ils intègrent la communauté dans la création du jeu. Alors, pas sur l'ensemble du jeu, mais ils font participer la communauté à une partie de leur production, ce qui leur assure qu'ils aient une communauté justement très forte, très investie, qui va d'une part faire une partie d'un travail nécessaire et souvent négligé, qui est le QA, donc les tests de qualité. Donc là, avec une grosse communauté qui teste un jeu pendant sa phase de production, on s'assure d'avoir moins de bugs à la sortie. Et en plus, c'est des gens qui vont être très motivés par le jeu, qui vont en faire la promotion eux-mêmes. Et on le voit aujourd'hui, en tout cas, en ce moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans tous les domaines commerciaux, c'est souvent le conseil par les pairs. Donc quand vous voyez des gens, d'autres utilisateurs que vous connaissez ou des amis qui aiment quelque chose, vous allez être plus tenté d'aller tester, d'aller essayer, d'aller acheter. On avait une question là-bas, au fond.
Allô, oui. Oui, bonjour. Je voudrais savoir pourquoi un studio privilégierait plutôt la solution de l'outsourcing pour la localisation plutôt que de chercher à développer une structure en interne.
Ah, c'est précis comme question, ça.
La localisation, pourquoi c'est outsourcé la localisation ?
C'est tellement compliqué qu'ils sont obligés de réfléchir. Donc la question, c'est d'outsourcer quelle partie d'ailleurs ? Ah oui, donc la localisation, pour que tout le monde comprenne, c'est effectivement... Alors oui, on a un autre problème qui est lié d'ailleurs à celui de la communication, j'ai oublié d'en parler. Un jeu vidéo est un produit commercial assez particulier par rapport à beaucoup d'autres, puisque c'est encore plus que beaucoup de produits culturels, quelque chose qui ne peut pas se satisfaire de son marché local ou national. C'est encore plus... Alors ça dépend des pays, aux États-Unis ils peuvent sans doute se satisfaire de leur marché national. En France, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'un jeu produit en France doit absolument viser une diffusion internationale. Donc c'est l'intérêt des plateformes comme Steam qui sont internationalement connues et reconnues et qui donc sont des places de marché importantes pour les jeux. Mais du coup, effectivement, se pose la question de la localisation. Alors la première réponse, c'est souvent il n'y en a pas et le jeu est fait en anglais et que en anglais, quelle que soit la nationalité du studio de production. Et après, effectivement, la question se pose, est-ce qu'on l'outsource ou est-ce qu'on le fait en interne ?
Alors, j'avais jamais réfléchi à la question. Mais en fait, moi, je pense que la réponse, c'est que la localisation, c'est une de ces tâches dans la production du jeu vidéo qui est extrêmement ponctuelle, localisée plutôt vers la fin de la production. Avoir des gens qu'on paye en interne à l'année pour localiser du contenu, il faut vraiment avoir une masse gigantesque de contenu pour rentabiliser quelqu'un à plein temps ou une équipe à plein temps en interne. Alors peut-être que dans des studios qui sont spécialisés dans les jeux extrêmement bavards, je pense au RPG chez BioWare par exemple, dans lesquels il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de dialogues, du coup, eux, peut-être qu'il y aurait un sens à faire ça. Par contre, moi, je vois sur notre premier jeu, on avait 45 minutes de dialogue, tout compris. Donc ça représente, je ne sais plus, il y avait une quarantaine de pages à voicer et à traduire. Du coup, c'est un truc qui peut être fait en quelques semaines. Et ça n'a pas de sens d'étirer ça sur plusieurs années de développement, enfin d'avoir quelqu'un en interne qui fait ça. C'est une de ces tâches en fait, qui est quand même vraiment ponctuelle. Et à moins d'avoir un projet vraiment ultra ambitieux à ce niveau-là, au niveau du contenu textuel et parlé, je ne vois pas comment ça peut être rentable d'avoir quelqu'un en interne. Enfin, pour moi, c'est la meilleure explication.
Pas mieux.
Juste pour ajouter, moi, j'ai travaillé dans un studio effectivement, où il y avait une équipe de localisation en place. Ils faisaient au minimum six langues plutôt. Mais par contre, on avait, à cette époque-là, on avait 15 projets en même temps. Donc, ceci expliquant cela. Pour la plupart des studios, avoir quelqu'un qui fait de la localisation, déjà, il faut être sûr qu'il soit bon, parce que votre jeu, il n'aura pas la même signification en anglais, en français et en japonais ou n'importe quelle langue. Ce ne sera pas les mêmes choses qui feront réagir les gens. Et le copain qui parle un peu anglais, qui parle un peu allemand, c'est sympa, mais c'est bien aussi d'avoir un pro et des gens qui savent quels sont les termes qui vont marcher dans telle langue et sur tel sujet.
C'est pas que de la traduction, c'est de l'adaptation.
Il y a de l'adaptation. L'outsourcing a cette faculté-là, c'est de permettre d'avoir le bon terme dans la bonne langue. C'est pas juste
en fait,
traduire.
Oui, la localisation, c'est à la fois au niveau de la langue, mais c'est aussi souvent, enfin, parfois culturel, en fait. Il faut vraiment faire attention, notamment quand des jeux vont être un peu bavards et ont beaucoup de jeux de mots ou de choses comme ça, ou qui sont très ancrés dans le contexte culturel initial pour les transposer dans d'autres langues. Il y a vraiment un gros travail à faire. Et là, on est obligé de prendre des gens qui sont natifs, généralement, des pays cibles, des langues cibles, et qui vont être capables, effectivement, qui vont être des professionnels de l'adaptation. Une dernière question ? Ou deux ?
Je vois pas.
Je peux pas voir.
Ah, là, il y a des questions. Il y en a une derrière d'abord et puis une devant après.
Bonjour. Dans la phase de production, est-ce que vous accordez un temps de réflexion sur le contenu ou c'est fait avant ? Enfin, à quel moment l'idée vient ?
Le contenu scénarisé, vous voulez dire ?
L'idée, qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre jeu, quelle est votre culture, entre guillemets, et est-ce que cette culture intègre la phase de production et est budgétisée ou pas ?
A priori, ce serait plutôt la phase de conception, donc c'est avant la production. Alors il y a plein de termes, nous on utilise des termes particuliers, la phase de développement pour nous en audiovisuel, c'est cette phase de conception. Et juste la phase de développement en production de jeux vidéo, c'est le moment où on fabrique le jeu. Mais je pense que le moment où on réfléchit à tout ça, c'est la première phase. La phase de conception où on pose toutes les idées, où on va tester, on va essayer d'imaginer tout le contenu justement du jeu et de le vérifier avant de rentrer en fabrication réelle. A priori, c'est normalement comme ça que ça se passe.
Ouais, alors après ça dépend. Nous les deux projets de jeu sur lesquels on a bossé, celui qu'on a déjà sorti et celui sur lequel on est, à chaque fois on partait d'une idée de gameplay. Donc on fait des jeux qui sont basés sur une idée vraiment de gameplay. Et après, par contre, moi, je suis en tant que joueur, j'aime bien les jeux à scénario. J'aime bien quand il y a une petite histoire. J'aime bien quand on m'embarque un peu dans le truc. Bon, je joue aussi à des jeux où il n'y a pas de scénario et où voilà, où ça peut être même complètement abstrait. Il n'y a aucune espèce d'ambiance et voilà, des puzzle games, des choses très très abstraites. Ça m'arrive. Maintenant, j'aime bien jouer à des jeux avec des mises en scène, des histoires, si possible, des histoires bien écrites. Voilà. C'est un truc que j'aime en tant que joueur. Du coup, c'est aussi un truc que j'aime faire en tant que développeur. Maintenant, c'est rarement ça qui est à l'initiative d'un projet, en tout cas chez nous. Et par contre, une fois qu'on a lancé l'idée, qu'on a commencé à prototyper justement l'idée pour fonctionner, pour vérifier qu'elle marche, vu qu'on sait que nous, nos jeux vont s'étaler sur des mois et des mois de production, ça nous laisse du temps pour cogiter l'univers qui va tourner autour. Ça a été le cas sur notre premier jeu, c'est le cas sur notre second jeu. Là, en fait, on a posé le concept du jeu. Après, on a posé une direction artistique, les premières images, des premiers visuels. Et ce sont les premiers visuels qu'on a posés qui nous ont menés à imaginer le scénario et le contexte qu'il y aurait derrière. Et puis c'est un travail qu'on fait en parallèle du reste, en tout cas nous là actuellement. Alors c'est pas forcément la façon habituelle de faire, mais on a et c'est aussi la raison pour laquelle on a embauché un illustrateur, c'est que voilà, il nous est venu des envies d'intégrer des choses plus narratives et de créer des ambiances et de créer un univers un peu plus solide. Et donc on a embauché quelqu'un pour illustrer tout ça. Et donc là le jeu il est dans sa phase de production, dans la phase finale de production, mais il n'est pas complètement écrit. On est en train d'écrire les dialogues, les différents enchaînements de l'histoire. Enfin, ça, c'est à peu près calé. Mais là, en l'occurrence, c'est un processus qu'on a fait parallèlement et qui s'est fait, qui se fait naturellement parce qu'on a envie de faire des choses et puis que ça vient comme ça au fur et à mesure. Mais dans notre cas, l'histoire n'est pas centrale. C'est un truc important pour nous, mais ce n'est pas central. C'est juste là pour accompagner, pour rendre le jeu plus agréable, plus immersif.
Je vais juste rajouter un truc. Dans tous les cas, et c'est quelque chose aussi que nous on a découvert dans le jeu vidéo, on change, on jette beaucoup, on recommence, on réécrit. Il y a un super post-mortem de Stéphane Beauverger qui a raconté son expérience sur Remember Me. Et il raconte comment il a commencé par une Bible de 1000 pages pour avoir que finalement 5% de cette Bible dans le jeu, qui a été finalement tout jeté. Il a fait 23 versions du scénario. Il y a une sorte de travail continu sur tous les aspects du jeu. Et c'est très difficile dans la production et dans notre cas d'être attaché à des choses et de devoir les couper parce que sinon on va faire un espèce de truc un peu Frankenstein. Où on dépasse le budget, où il y a mille raisons qui font qu'on va remettre en question assez souvent certains aspects, que ce soit narratif ou de gameplay ou de design. Voilà.
Et donc il y avait une question devant.
Je ne sais pas si on aura le temps, mais c'était sur des histoires de gros sous et sur l'émergence ces 5 dernières années peut-être du crowdsourcing, du financement participatif, pardon pour l'accent. Est-ce que c'est quelque chose que... Enfin, c'est des formes de financement que vous pensez pouvoir généraliser, ou est-ce que ça reste très ponctuel, et notamment pour des gens qui ont un projet et qui veulent se lancer pour la première fois, peut-être ?
Alors, on revient un peu sur une thématique qu'on a abordée au début rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu effectivement un shift dans l'industrie du jeu vidéo ces dernières années, à savoir qu'on était sur une industrie qui était très proche de la structure de financement du cinéma, avec de la production et des studios qui exécutaient. Et donc la production-diffusion qui était entre les mains d'éditeurs. Et avec sans doute la crise économique, le fait que les éditeurs cherchent avant tout la rentabilité, que le marché se grossisse et que du coup, pour produire un jeu qui coûte 5 millions de dollars ou 10 millions de dollars à produire, il faut sortir 5 ou 10 millions de dollars en marketing. Enfin, voilà, tout ça, ça a un peu rigidifié la partie édition et rendu difficile la relation éditeur-studio, et voire délétère dans certains cas. Et c'est pour ça que a émergé cette vague de studios indépendants qui se sont mis à produire eux-mêmes leurs jeux, alors du coup avec des ambitions beaucoup moindres, des jeux avec des productions qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont du coup productibles en interne ou en partie avec des aides, notamment du CNC en France qui par exemple fournit des aides pour la production de jeux vidéo, qui permet de faire des jeux d'ambition moyenne en n'étant quand même pas tout seul pour les faire.
Et puis est arrivé donc plus récemment le crowdfunding, donc le ce qui est financement participatif, avec effectivement, comme le disait Alain tout à l'heure, au début une grosse vague de gros succès sur Kickstarter, sur des jeux vidéo. Voilà, ce sont différents modes de financement et ça en fait correspond à des idéologies et à des visions en termes de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut atteindre, est-ce qu'on veut inonder la planète avec notre jeu, ou est-ce qu'on veut juste le vendre aux quelques personnes à qui on sait que ça va plaire, et du coup on n'a pas on met pas forcément les mêmes moyens en face. Et puis bah, après ça dépend aussi de l'ambition de production du jeu en fait, et effectivement il y a des jeux qui sont beaucoup plus chers à produire que d'autres. Donc sur la pérennité de ces modes de financement,
c'est, alors encore plus lié aux jeux vidéo, c'est assez particulier le crowdfunding. Il y a eu effectivement des très gros succès qui était lié principalement au fait qu'il y avait des têtes d'affiche, hein, des game designers connus ou des licences de jeux. Il y a eu de grosses gamelles aussi, soit des jeux qui ont pris beaucoup d'argent et qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils ont annoncé. C'est hyper compliqué. Et de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué. Et je pense que si on regarde Kickstarter aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeux vidéo. Pour plusieurs raisons. D'abord, ça devient un espèce de vrai métier de faire un Kickstarter. C'est-à-dire, ça se travaille, il faut investir de l'argent. Il faut investir de l'argent, il faut mettre de l'argent dans de la relation presse, dans du temps passé.
C'est
dans,
une campagne de communication.
C'est une campagne de com. Il faut être au clair avec ses objectifs aussi. Il faut avoir une communauté préexistante qui va nous soutenir, parce que généralement, ça va être la famille et les amis qui vont mettre de l'argent. Donc je ne sais pas si c'est vraiment pérenne. Ça va être compliqué. Ça peut aider certains studios, ça peut aider certains créateurs. Il y a des gens il y a Henry Smith, qui est un créateur de jeux vidéo, qui a lancé une campagne et dans une réflexion un peu différente, qui dit: je ne vais pas vous demander de l'argent pour faire un jeu, je vais vous demander de l'argent pour moi. Et moi, pendant cette année, je vais vous faire 3 jeux. Donc il y a des expérimentations grâce au crowdfunding, mais qui sont pas directement liées à des gros produits ou à des grosses marques, qui sont liées à des modèles économiques un peu différents.
Et pour finir, en 30 secondes, Alain, peut-être sur les sommes qui sont habituellement demandées pour produire les jeux.
Oh, il me connaît bien. C'est juste, en fait, ça, c'est une réalité dont les gens n'ont pas forcément conscience. L'énorme majorité des campagnes de crowdfunding que vous voyez un peu partout ne représentent absolument pas les budgets nécessaires pour produire un jeu. Alors les raisons de cette différence entre le coût réel et le coût demandé sont très variables. Les grosses têtes d'affiche, on peut considérer que c'est une sorte de fausse modestie. Les gens demandent peu, enfin moins, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir plus, et c'est un moyen pour eux, c'est une sorte de pied d'appel en fait, de dire: vous voyez, j'ai besoin que de ça et tout. Mais ils savent très bien que s'ils ont que ça, ils feront jamais leur jeu. Et même s'ils ont beaucoup plus, des fois ils y arrivent à peine. Et les plus petits, qui sont beaucoup plus nombreux et qui ont beaucoup moins de réussite en général, eux, en général, c'est par ignorance. C'est très souvent des gens dont c'est le premier jeu, qui n'ont pas la moindre idée de combien coûte un jeu. Si vous voyez une campagne de crowdfunding à 10 000 dollars ou 10 000 euros pour faire autre chose qu'un petit puzzle game ou qu'un petit platformer vraiment super pas ambitieux, s'il y a le mot RPG dedans, s'il y a le mot online dedans, s'il y a le mot multijoueur dedans, c'est vastement sous-budgété. Et soit les gens en sont conscients et ont d'autres sources de revenus et ne le disent pas, soit les gens n'en sont pas conscients et vont vraiment galérer à mort et vont peut-être sortir un jeu, mais vont vraiment souffrir, soit les gens n'en ont pas conscience et vont se gaufrer lamentablement, ce qui se passe dans pas mal de cas.
Voilà, on va terminer là-dessus. Je vais remercier nos invités. Si vous avez d'autres questions à leur poser, ils sont sur le stand jeux vidéo, sur le pôle jeux vidéo, avec leurs jeux à présenter, et donc vous pouvez poursuivre cette discussion. Merci à tous et merci aux invités. Merci.